Lors de notre dernière rencontre par les ondes, nous avons commencé d'examiner les différentes conceptions de Dieu entretenues par l'esprit de l'homme. Nous continuons aujourd'hui cet examen en relevant une conception de Dieu assez répandue, qui, à prime abord, est assez juste, mais qui s'avère en fin de compte aussi incomplète et peu satisfaisante, voire même aussi dangereuse que les autres. Elle envisage Dieu dans sa terrible puissance, régnant sur l'immensité, et elle ne peut concevoir qu'il puisse s'intéresser à ce grain de conscience que je suis, sur ce grain de poussière insignifiant qu'est notre planète au sein de l'univers. Cette idée de Dieu permet de se dérober à certaines contraintes morales. En effet, comment ce Dieu pourrait-il prêter attention à mes petites incartades? Il a d'autres chats à fouetter, pourvu que dans les grandes lignes, je reste dans les rangs. Cette conception de Dieu est fondée sur l'expérience humaine. On peut concevoir un patron s'intéressant à chacun de ses 25 ou 50 employés en particulier. Mais lorsqu'un patron est à la tête de plusieurs milliers d'ouvriers, il ne peut plus se pencher sur les moindres détails de leur vie. Ainsi, comment peut-on imaginer que Dieu puisse entendre toutes les prières qui lui sont adressées? Le standard doit être bloqué en permanence. Il n'est pas difficile de voir que ce Dieu-là n'est qu'une idée. Il n'est qu'une projection de notre expérience humaine, c'est pour cela qu'il est faux. Ce dont j'ai besoin, c'est d'un Dieu personnel qui me connaisse bien et qui puisse m'entendre, m'écouter en tant qu'individu, et me comprendre, et me venir en aide à moi, avec mes problèmes particuliers. C'est précisément le Dieu de la Bible, maître de l'infiniment grand, comme il règne sur l'infiniment petit. Et il suffit de lire la Bible pour comprendre qu'à ses yeux, nous ne sommes pas si petits que ça. Pour beaucoup de gens, l'image mentale qu'ils se font de Dieu est celle d'une déception. Toute leur vie est affectée par cette prière à laquelle il n'a pas répondu, par cette souffrance qu'ils n'ont pas méritée. Ils sont constamment en train de donner leur avis sur ce que Dieu devrait faire, sur ce qu'il aurait dû faire. Ils lui reprochent de tolérer que le bon souffre, alors que le méchant reste impuni. Ils en parlent sur le ton d'un ouvrier qui se plaint de son patron parce qu'il ne fait pas ce qu'on attend de lui. Il est évident qu'envisager Dieu sous cet angle-là ne peut apporter aucune sorte d'apaisement. Cette conception conduit presque inévitablement au doute et à l'incroyance, en passant par ce raisonnement, hélas trop courant, si Dieu existait, il ne permettrait pas la guerre, la souffrance des innocents, etc., etc. Raisonner de cette manière, c'est manifestement mal connaître la volonté de Dieu à l'égard de ses créatures et de la création en général. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a en quelque sorte accepté de courir un risque en lui faisant don de la liberté. Être libre, c'est pouvoir choisir. Une fois que nous avons compris cette notion de responsabilité dans la liberté, il n'est pas difficile de concevoir que si certains ont choisi de faire la volonté de leur Créateur, d'autres ont choisi de faire le mal, c'est-à-dire le péché, et que ce mal s'accumulant au cours des siècles a pu provoquer un grand désordre et de multiples souffrances. Il se peut que nous ne comprenions pas pourquoi Dieu a consenti de courir ce risque. Il se peut que nous aurions préféré un monde peuplé de robots, infailliblement bons, aimables et justes. Mais ce sont là des réflexions stériles. Notre rôle est d'essayer de comprendre comment Dieu agit dans ce monde tel qu'il est et ce qu'il attend de moi, sa créature. En fait, dans sa parole, il nous fait comprendre, par des avertissements, que le règne de justice n'est pas de ce monde, mais que le bien finira par triompher du mal. Il nous demande d'avoir cette foi, c'est-à-dire cette confiance, que toutes choses concourent au bien de ceux qu'il aime. Dieu se sert en effet parfois du mal et du méchant pour parvenir à ses fins, sans porter atteinte à la liberté de l'homme. Sur cette question, comme sur beaucoup d'autres, notre point de vue sera toujours limité. Et il arrive souvent qu'un seul arbre nous cache toute la forêt. Une tragédie atroce, une injustice déchirante, et nous voilà désemparés, en proie à nos « pourquoi ». C'est alors qu'il faut se souvenir de ces paroles parmi tant d'autres semblables. « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Il est encore un autre Dieu, c'est celui que l'on réserve à l'élite. C'est là une des caractéristiques des êtres humains, que de se créer une classe privilégiée pour l'honorer. Ainsi, nous avons parfois la tendance d'élever certains hommes au-dessus des autres à cause du caractère exceptionnel de leur foi et de leur spiritualité. On les met dans une classe à part, on en fait des mystiques et des saints, Dieu est vraiment Dieu pour eux. Ils sont à même de l'atteindre jusqu'au pied de son trône. Quant à nous, chrétiens ordinaires, quelques prières et l'exercice habituel du culte suffisent. Le reste n'est pas à notre portée. Hâtons-nous de dire que le Nouveau Testament ne connaît pas ce genre de hiérarchie. Dieu ne fait pas exception de personne. La vraie religion, Dieu l'exige de tous. Elle n'est pas apparentée à l'héroïsme. Elle n'est pas l'apanage d'une seule élite spirituelle. Elle consiste essentiellement en des activités aussi terre-à-terre que de se préoccuper de son prochain et de préserver sa foi en dépit des circonstances extérieures. Il est vrai que certains chrétiens se détachent des rangs par la qualité de leur service. Si, à nos yeux, ils ont plus de mérite que d'autres, il n'est pas certain que l'appréciation de Dieu corresponde à la nôtre. Nous savons par une parabole du Christ que Dieu n'a pas confié à tous les hommes la même quantité de travail à fournir. Certains ont reçu la valeur de 5 talents, d'autres n'ont reçu que 3 talents ou un seul, mais tous ont reçu selon leur capacité. Leur responsabilité à tous est donc égale, fournir un travail en rapport avec leur capacité. Dieu n'exige de personne qu'il fasse l'impossible, mais il exige de tout homme qu'il fasse son possible. Aussi est-il écrit, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. Notons en passant que le Christ, tel qu'il nous apparaît dans l'Évangile, ne correspond pas à notre conception d'un saint mystique. Le Christ était étroitement mêlé aux hommes, à leur vie de tous les jours, et c'est dans leur vie quotidienne et banale qu'il est venu injecter le souffle régénérateur de sa parole. Il n'y a pas de Dieu réservé à une élite. Le vrai christianisme ne connaît pas de classe privilégiée. Jésus ne l'a-t-il pas souligné lorsqu'il rappelle « Vous êtes tous frères ». Parmi de nombreux promoteurs de la lecture de la Bible, on trouve des gens qui, à la vérité, se sentent plus à l'aise à parler de Jéhovah que du Christ. Même s'ils ne l'avouent pas franchement, il ressort nettement que l'Ancien Testament est plus cher à leur cœur que le Nouveau Testament. Ce sont des gens qui envisagent la religion comme une sorte de contrat. Conformez-vous à certaines règles fondamentales, et Dieu, donnant-donnant, veillera sur vous et sur vos intérêts. Par exemple, ils écrivent couramment dans leur revue « Si seulement le monde consentait à respecter la loi des 10 commandements ». Pour eux, l'Évangile se réduit pratiquement à cette formule-là. Ils ne semblent pas encore avoir apprécié le caractère révolutionnaire de l'intervention de Dieu dans le monde en Christ. Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi, je vous dis. En effet, Jésus a dégagé l'esprit de la loi de Moïse. Il est allé en profondeur pour fonder une religion du cœur. Ainsi, par rapport à la loi du Christ, les 10 commandements sont imparfaits. Un seul exemple nous suffira. La loi de Moïse dit « Tu ne tueras point ». C'était catégorique. Mais si nous voulons nous en tenir à l'économie de cette loi, c'est un commandement qui se limite aux relations d'un Israélite avec un autre Israélite. Quant à ses contacts avec l'étranger et l'ennemi, c'était une autre histoire. Et les guerres d'Israël avec les peuples voisins sont sur ce point assez éloquentes. Mais le Christ annonce que ce précepte a vieilli. Il a rempli son rôle. Il est temps de passer à une autre étape. Il est temps d'apprendre une autre loi. Jésus ne répète pas ce commandement « Tu ne tueras point ». Il est plus catégorique que cela. Il n'attend pas que l'acte soit commis pour le condamner. Il le traque jusque dans ses racines, jusque dans le cœur de l'homme où il germe. Selon sa loi, la haine est déjà condamnable. Et celui qui insulte son frère est déjà meurtrier. Quant à ton ennemi, il faut l'aimer aussi, le bénir, lui faire du bien, même s'il te maudit et cherche à te faire du mal. Cela, les 10 commandements ne le disent pas, parce qu'ils font partie d'une économie de transition adaptée au seul peuple juif. Ce que nous appelons économie de transition, la Bible l'appelle l'ancienne alliance, qui disparaît pour faire place à la nouvelle alliance établie par le Christ. Ceux qui ne cessent d'invoquer le Jéhovah de l'Ancien Testament et les 10 commandements qu'il donna au peuple hébreu ne semblent pas avoir compris que l'intervention du Christ dans l'histoire des hommes a tout bouleversé et que cela faisait partie du plan de Dieu. Désormais, tous les hommes peuvent s'approcher de Dieu pour leur salut par le chemin que Christ a ouvert. En lui, nous avons une meilleure espérance et de meilleures promesses. Nous ne nous attarderons pas sur ce sujet car nous en avons déjà fait l'objet de plusieurs causeries. Pour continuer notre répertoire des faux dieux qui infestent l'esprit humain, il faut encore mentionner une conception très moderne que cultivent les plus éclairés. C'est le dieu complètement dépersonnalisé, de certains philosophes d'avant-garde, un Dieu qui se confond dans la somme des plus hautes valeurs. Il n'y a pas de place dans cette idée pour ce Dieu personnel, ce Père céleste qui se révèle à moi, qui se communique, qui veille sur chacune de ses créatures. Il ne reste plus qu'une sorte d'objectif ultime vers lequel tout le monde doit tendre, constitué par ce que nous considérons comme les plus hautes valeurs, élevé à la énième puissance. Comment voulez-vous croire, c'est-à-dire avoir confiance en un Dieu pareil et le servir? En fait, ce n'est là qu'une forme d'athéisme, habilement dissimulée derrière un raisonnement philosophique, une tentative de nier l'existence de Dieu sans oser le dire franchement. On sait que l'homme a un besoin inné d'adorer. S'il ne se tourne pas vers Dieu, son créateur, il se fabriquera d'autres dieux. Nous connaissons les plus courants, l'argent, le succès, la puissance, la gloire, la science et même la sécurité. Il ne vient évidemment à l'idée de personne d'appeler cela des dieux, mais pratiquement, c'est ce qu'ils sont, par l'influence qu'ils exercent sur le comportement des hommes, par la place qu'ils occupent dans leur vie, par le culte empressé, quoique souvent inconscient, qu'on leur voue, et qui ne devrait appartenir qu'à Dieu. Lorsque l'homme découvre le vrai Dieu, c'est alors seulement qu'il est à même de se rendre compte à quel point son instinct d'adoration a été déformé et mal orienté. À tous ceux qui avaient mis leur confiance dans un de ces dieux artificiels et qui se sentent à présent déçus, trompés et amers, je me permettrai de rappeler ces paroles de Tolstoï, pleines de logique. « S'il vous advient de croire que tout ce que vous avez pensé de Dieu est faux, n'ayez point honte. Quand un sauvage cesse de croire à ses idoles, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de Dieu. Cela signifie que Dieu n'est pas une idole de bois. » Lors de notre prochaine rencontre, nous essaierons de faire le point sur le vrai Dieu, tel qu'il cherche à se révéler à nous, dans sa création et dans les Écritures.